Frontière.
Comme annoncé tout à l'heure, voici le compte-rendu de la projection en grande première samedi de Mappalenet par notre collaborateur Jean-Dominique.
La soirée de samedi a été marquée par la présence de deux grandes artistes, de deux artistes de classe. La danseuse Régine Maximilien et la grande pianiste Vanda. Elle a été aussi, cette soirée, marquée, comme le soulignent les commentateurs de journaux, par la lecture de messages de différents auteurs, hommes de lettres, journalistes haïtiens, s'exprimant en général en créole. Il faut préciser, avant de parler de ce film, mes raisons profondes pour le présenter comme je l'ai fait la semaine précédente. Il s'agissait pour moi, lors de la projection en séance privée qui eut lieu à New York, dans des studios de mixage et de montage, du premier film haïtien, et ce premier film haïtien placé sous le signe du créole. Ce fait, et ce fait seulement, aurait dû justifier, selon moi, l'enthousiasme général. Il était en effet indispensable que nous trouvions enfin un langage commun aux nantis et aux démunis du savoir en Haïti. Un langage qui transcende et le langage littéraire et le langage de communication importé d'outre-mer. Le film utilise, comme l'a souligné Dieudonné Fardin dans son message, l'un des moyens de communication modernes, mass-média, et permet ainsi, grâce aux images, de faire comprendre la langue et de lier langue parlée, image, à la réalité quotidienne. Mappalenet, deuxième raison, c'est un film simple, une histoire sobre, capable d'attendrir aussi bien la grande dame des beaux quartiers que la vendeuse de pistaches du Bel Air ou du Mornatuf. Aussi bien l'intellectuel que l'homme qui tout simplement veut chercher quelques minutes de détente dans une salle obscure. Un film simple, une histoire sobre, faite pour tous et pas seulement pour quelques privilégiés. Troisième raison de mon enthousiasme, Mappalenet, c'est un film qui réunissait la discrétion sans tapage d'éléments qui sont pour nous jalons du quotidien. Comme je l'ai souligné dans la présentation, ces éléments sont picturaux, de tableaux, le long de l'itinéraire lamentable de cette jeune femme haïtienne passionnée, jalouse et inquiète, dans l'attente d'un homme qui la dédaigne. Éléments encore, quelques notes de musique, rappel de notre tradition européenne, liées à la profonde expressivité populaire qui termine le film sur des accords de guitare et la voix d'un chanteur connu. Cette ballade du désespoir ainsi connaît sa conclusion. Enfin, la rencontre de ces divers éléments de nos influences différentes et parfois contradictoires. Ce film est vraiment un film rencontre, un film métissage. Et c'était enfin une tentative courageuse de mettre en image des mots, ce qui n'est pas toujours facile, car il y a la tentation facile, la tentation évidente du verbiage. À partir de ces raisons, il était donc indispensable d'en arriver à une présentation magistrale de ce moyen-métrage. Un malentendu s'est alors glissé dans l'esprit du public. Dès le début, cependant, les responsables de la production avaient bien dit qu'il s'agissait d'un moyen-métrage. Carlo Desinor, dans le Nouvelliste, n'avait-il pas écrit en toutes lettres que le film durait 25 minutes? Pourtant, les gens semblaient s'attendre à un film d'1h30. Et le phénomène boule de neige ayant opéré, certains spectateurs ont trouvé Mappalenet trop court. Moyen-métrage, certes, les gens se sont dit que quelque chose devait arriver, étant habitués dans les salles obscures à absorber un film d'1h30 et davantage. À ce sujet, quelques précisions sont indispensables. Le choix du moyen-métrage répond, selon moi, à des nécessités tant d'ordre pratique que théorique, ou disons le mot stylistique. Le coût du film, le coût de la production, les possibilités de remboursement du financement. Un moyen-métrage n'est pas une œuvre mineure en soi. Et souvent, les auteurs du cinéma, ainsi que les critiques, font remarquer le parallélisme entre la nouvelle et le roman, ce que les Américains appellent « the short stories and the novel ». La différence n'est pas de qualité entre la nouvelle et le roman, car un auteur de nouvelles, « the short stories », a besoin d'autant de talent, d'autant de génie créateur qu'un romancier. Il y a donc là une différence à souligner, mais les procédés de commercialisation du cinéma n'ont pas permis d'apprécier à sa juste valeur le court ou le moyen métrage, qui sont toujours présentés en complément de programme, comme s'il s'agissait d'un additif, de quelque chose de superflu. Tandis que la nouvelle dans le domaine littéraire est un genre qui a ses lettres de noblesse. Pensons à Edgar Allan Poe, par exemple, ou à Guy de Maupassant. Mais le choix des promoteurs du film, leur choix de réaliser, pour le premier film haïtien, un moyen-métrage, est lié aussi à des considérations d'ordre pratique, disons des considérations d'ordre bassement économique. Le cinéma, hélas, comme disait André Malraux, est aussi une industrie, c'est-à-dire un système qui fonctionne sur la circulation de l'argent. Rappelons qu'un film pareil coûte $600 la minute de projection, c'est-à-dire la minute rendue, la minute du produit fini. Cela ne couvre pas le cachet des acteurs, celui des interprètes, le salaire des techniciens. Cela ne couvre aucune rétribution de tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu participer au film. 5 à $600 la minute projetée couvre strictement l'achat de la pellicule, son développement, les frais de studio, de montage, de mixage. Faites un petit calcul et vous voyez tout de suite à quel chiffre astronomique, pour le milieu du moins, s'élève la production d'un long métrage. Un long métrage de 120 minutes ou de 90 minutes. Astronomique pour Haïti, s'entend. Il y avait donc un choix sage à opérer et les producteurs ont choisi la sagesse. Signalons enfin que ce choix du moyen métrage dépendait évidemment du texte que le film se devait d'illustrer. Le texte de Rasoul Labuchin, comme on l'a longuement expliqué, était dans un créole non paysan, le créole d'une petite bourgeoisie qui se cherche justement une langue. Ce texte, inspiré d'une idée de Jean Cocteau, le bel indifférent, était haïtianisé, mettait en chair cette aventure d'une femme et de son vis-à-vis un énigmatique, haïtianisé au niveau d'une certaine classe sociale. Oui, on pourra critiquer l'aspect sociologique du film, on pourra lui reprocher justement sa minceur sociologique, nous y reviendrons. Le cinéma donc coûte cher, et je crois qu'une petite allusion à la possibilité de rentabilité d'un tel film haïtien est importante à ce niveau. À $600 la minute, comment un film de long métrage peut-il être payé par les spectateurs, ce qui est le but de l'opération? Il faut que la commercialisation paie le financement. Alors comment? Il faut que l'investissement soit remboursé par la projection. Signalons que le record jamais atteint jusqu'ici est de 15 000 spectateurs pour un film à succès. Multiplions ces 15 000 par $2, et vous avez là l'espérance mathématique d'un film moyen, 30 000. Rien de plus. Évidemment, ces 15 000 spectateurs calculés d'après les résultats de projection de Gouverneur de la Rosée, des 10 commandements ou de Vaudou en Haïti, ces 15 000 spectateurs comprennent plus ou moins le français. Voilà. Le choix du créole répond à une nécessité pratique, celle d'atteindre un plus large public, un public beaucoup plus large que celui de ses 15 000 spectateurs. Il y a là un risque calculé, mais un risque calculé dans la sagesse. La stratégie de ce moyen-métrage débouche donc sur un malentendu. Le public n'est pas habitué à assister à un film court dans une soirée consacrée au lancement. Notons pour rassurer les futurs spectateurs que le plan de commercialisation du film prévoit qu'il doit être présenté en levée de rideau et qu'il sera donc suivi d'un grand film, comme c'est la coutume dans les salles de spectacle en Haïti et à travers le monde. Le critique de cinéma, à présent, peut-il regarder un tel film avec toute sa lucidité? Certes, il se doit d'être lucide, mais il ne peut cependant s'asseoir dans sa tour d'ivoire et analyser le premier film haïtien avec le même regard froid, compassé, détaché, qu'il a pour « Crise et chuchotement » par exemple, ou pour « Les ultimes dents de la mer ». Le regard du critique haïtien doit permettre au public de comprendre, de construire autour de lui, pas de détruire, de bâtir, pas de corroder. Le critique doit faire comprendre au public les différentes étapes, difficiles certes, mais exaltantes, de notre cinéma national. C'est pourquoi la critique, selon moi, insistera sur plusieurs choses. La première, les règles mêmes de ce moyen-métrage, le cadre, équivalent à la nouvelle dans le sens littéraire. Quelles sont ces règles? Simplification, linéarité du récit. Un récit qui doit être une véritable recréation intimiste. Le cadre de la nouvelle ne permet pas d'aller ailleurs. Il s'agit, dans une forme cursive, allusive, de recréer la vie autour d'un être ou de deux êtres, dont les contradictions permettront de faire jaillir une ou plusieurs vérités élémentaires, et peut-être au passage une certaine beauté. Voilà le cadre de la nouvelle. Le souci du réalisateur de ne pas situer cette vie recréée n'importe où, mais bien dans notre milieu. Comme l'a dit le frère Poris Jean-Baptiste, il s'agit pour nous d'avoir sous nos yeux notre vie haïtienne, mais modelée dans un moule haïtien, pas Rad Kennedy, comme on dit. Là réside, selon moi, la réussite de ce moyen-métrage. Cependant, dans les éléments de cette réussite, gisent aussi les causes d'un relatif échec. Disons, reposent les bases d'un malentendu. Nous pouvons parler d'une relative maladresse de langage, l'absence de profondeur psychologique, de profondeur sociale ou d'épaisseur culturelle, la minceur du personnage. On ne pouvait pas en quelques minutes décrire la classe sociale, le milieu familial, l'ambiance économique de Madame Milot. Il y a cependant des notations brèves et discrètes qui nous permettent de situer cette femme dans un certain univers social assez identifiable. Le cadre dans lequel elle vit, son mobilier, ses vêtements, sa façon par exemple de porter les rouleaux, sa façon de répondre au téléphone, enfin tout ça. Bref, enfin le plus important selon moi, c'est le langage. La langue de Raphaël Stein, le réalisateur, est encore, il faut le dire, à se chercher. C'est une langue de premier film, une langue de première œuvre. À côté de réussites certaines qui lui ont permis d'illustrer brillamment ce texte intéressant du point de vue poétique et du point de vue de la vie quotidienne, il y a des balbutiements. Nous prenons les exemples de gros plans qui n'ont pas toujours, pendant ces 30 minutes, de signification immédiate. Gros plans sur des objets, gros plans qui n'apportent pas quelque chose de plus dans la compréhension de l'histoire, dans la recréation d'une atmosphère ou dans l'évolution psychologique du personnage. Des gros plans ou des mouvements d'appareil gratuits, superflus, appelons-les des redondances. Citons encore au passage des cadrages dont le contenu de la photographie est, disons, laissé au hasard de la promenade de l'appareil. Au passage, signalons par contre la réussite de ces fondus enchaînés sur l'horloge, qui sont comme un raccourci du temps qui passe et qui permettent en même temps de noter l'agacement passif de cette attente chez la femme. Nous ne signalerons pas, parce que cela relève, disons, de la taquinerie technique, la diachronie entre l'expression labiale et le son qui sort. Souvent, la synchronisation n'est pas au quart de seconde. Mais cela, rappelons-le, est lié aux limites du 16 mm projeté dans une salle faite pour le 35. Le premier film haïtien est en conclusion conditionné par son financement. Il est conditionné par son mode de production. Et cela est capital. Le premier film haïtien est en créole et cela permet de débroussailler un terrain vierge pour les prochains films de Raphaël Stein, mais aussi pour ceux qui vont suivre dans la foulée. Le premier film haïtien permet de lever des tabous, le tabou du créole, le tabou de la femme dans son cadre familial, le tabou des rapports amoureux. Le grand public pourra dorénavant exiger que les films qui lui sont préparés soient en créole ou dans une langue proche d'un très large public. Mais à propos de langue, il ne s'agit pas seulement de la langue parlée, mais de la langue filmique, du langage. Celui-ci est à créer. Il ne l'est pas impliqué automatiquement, ce langage cinématographique que nous cherchons, dans le plaquage de photographies successives, le fait par un directeur de photographie de placer sa caméra devant la réalité haïtienne sur un paysage physique, naturel ou humain, ne signifie pas pour autant qu'il développe un langage. Cette langue du cinéma haïtien est à trouver. Raphaël Steins en a posé les jalons. Rendons-lui cet hommage et tentons autour de lui d'encourager ce premier film haïtien, Map Palénette, dans sa carrière. Sa carrière comme lever le rideau d'un programme qui sera suivi par un très grand, un beaucoup plus grand nombre de spectateurs que ceux qui ont l'habitude d'aller voir des films francophones. Souhaitons donc bonne chance à Rafi et à toute son équipe. Prestige.